Mesdames, messieurs, bienvenue de manière très matinale dans ce temple. Troisième journée pour nous des imaginales maçonniques et ésotériques. Et nous accueillons ce matin un ami habitué quand même maintenant des IME, parce que je crois que c'est la troisième fois.
Hein. La troisième fois.
Alors moi, je voudrais juste rappeler que, en souhaitant la bienvenue à Jacques ce matin, rappeler qu'il est devenu au fil du temps et de sa retraite un éminent spécialiste de la franc-maçonnerie en Lorraine, et puisqu'il a déjà commis quelques ouvrages sur la franc-maçonnerie, dont un pour la franc-maçonnerie mircurcienne. Après, il y a eu les vêpres tragiques sur la colline de Sion.
C'était pas maçonnique.
Non. Et puis, il y a eu la maçonnerie de Stanislas. Hein.
Oui.
Et puis, enfin, les mystères de la franc-maçonnerie à Lunéville.
Et les Hogerty.
Voilà, les Hogerty. Et puis, là, dernièrement, il c'est un peu la raison de sa présence, donc, ce matin. Il vient nous conter un peu les francs-maçons de Martinpré, mais plus précisément ceux de Bruyères.
De Bruyères.
Voilà. Ce qui nous vaut l'amitié d'avoir quelques éminents spécialistes de la région. Je salue dans l'assistance le maire de Docelle. Bon, il est là avant tout en tant qu'amoureux de l'histoire, n'est-ce pas, Christian? Et puis, donc je vais laisser la parole sans plus tarder à Jacques. Et puis, à l'issue de sa plaidoirie, de son intervention...
Si des questions fusent...
Je pense que vous aurez sans doute quelques questions à lui poser sur ces bons messieurs de Martinpré. Tout en précisant que le titre exact de l'intervention de ce matin s'intitule « Les francs-maçons de Bruyères, épris de l'esprit des Lumières ». Face à la dévoterie. Alors, je lui disais en bas, près du café, que j'avais lu la bigoterie, mais non...
Non, c'était la dévoterie.
J'ai vraiment mal lu.
À quelques nuances près. Voilà. Oui.
Bon, c'était un petit trait d'humour. Hein. Donc, je laisse la parole à Jacques et pour son intervention. Merci à toi, Jacques.
Merci, Jean-Pierre. Oui, donc, bonjour, messieurs, dames. Je vais me faire un plaisir de vous parler un petit peu de cette histoire, de ce qui s'est passé à Bruyères en ce 18e siècle, donc avec cette dévoterie ou cette bigoterie, où on est presque tombé dans des histoires de clochemaires, presque. C'est assez amusant, hein, puisque des futurs francs-maçons, à l'époque, ils y sont pas encore. Il va falloir encore 2 ans avant que... donc 4 ans avant que la loge soit, disons, allumé, mais il y a déjà des francs-maçons qui habitent Bruyères et des anciens militaires qui sont déjà quand même francs-maçons dans la région. Alors, ne croyez surtout pas que les francs-maçons de Bruyères, en ce début de seconde moitié du XVIIIe siècle, étaient tous des anticléricaux. Pas du tout. Et qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Ça, c'est loin s'en faut. D'ailleurs, un des membres de la loge de Bruyères, qui deviendra révolutionnaire et conventionnel même en 1792, faisait partie d'une congrégation des agonisants et des morts de Bruyères, donc très investis dans la sphère religieuse et charitable. Toutefois, à cette époque, il faut savoir que le déisme pouvait se rencontrer, et tout particulièrement chez les nobles, ainsi que chez les intellectuels, comme on dit maintenant, et même depuis. Mais cela, surtout, ne se disait pas. N'oublions pas que Voltaire, dans une lettre destinée au roi Frédéric II de Prusse, conseillait à ce despote éclairé d'entretenir la croyance en Dieu chez les petites gens, pour mieux les contenir. Chez les paysans du duché de Stanislas, comme partout ailleurs en ce temps-là, en milieu rural particulièrement, il aurait été impensable de ne pas croire en Dieu et surtout de le manifester. Quant au comte de Martinpré, qui, père et fils, avaient été vénérables de leur propre loge à Bruyères, où ils allaient devenir vénérables d'ailleurs, ils n'y étaient pas encore, ils étaient franchement des théistes fervents, purs et durs, et très pratiquants, donnant l'exemple et il n'aurait pas été question pour eux de formuler la moindre critique à l'endroit des clercs, même s'ils n'acceptaient pas leur rigorisme religieux. D'ailleurs, on peut faire une petite parenthèse. Actuellement, la famille des Martin-Pré, qui donc les descendants, sont toujours aussi très très pratiquants, et ce sont des purs et durs aussi. Purs et durs. Et peut-être que chez ces bruyérois, dont certains d'entre eux, en tant qu'anciens militaires, étaient déjà francs-maçons, d'autres qui n'étaient pas encore, mais qui, épris de l'esprit des Lumières, allaient bientôt se faire initier en 1768, après l'allumage des feux de la première loge Saint-Jean, la parfaite amitié, des événements vont être à l'origine d'une querelle qui, à notre époque actuelle, relèverait plutôt, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une histoire à la Cloche-Merle, mais qui n'en demeure pas moins être une tartufferie qui insupporta et secoura la vie bruyéroise en cette année 1764. Mais en préambule, évoquons la villégiature du philosophe Marmontel dans la contrée bruyéroise en 1760-1761. Car ce dernier séjourna dans les résidences des comtes de Martin-Pré pendant plusieurs mois. En effet, Marmontel, philosophe et futur franc-maçon, à l'occasion d'un voyage circulaire qu'il fit en 1760, allant de Bordeaux à Genève, en passant par Lyon, fit une étape à Bruyères. Il s'y plut et choisit même de s'inspirer des personnages de cette famille de Martin-Pré dans un ouvrage philosophique qui fut publié en 1765, Les Contes Moraux, dont l'action se passe à Laval. Alors Laval devant sur Vologne, hein, lieu de leur résidence. Marmontel avait loué alors la grandeur d'âme des comtes, leur bonté, leur disponibilité envers leurs gens, qu'il appelait d'ailleurs vicomte dans son ouvrage. Et montré, là il corroborait la bonne réputation des Martin-Pré dans la contrée, qu'ils étaient des hommes de bien, d'honneur et de probité, très respectés pour leur humanisme. Il ne tarissait pas d'éloges non plus sur les gens de toutes sortes qu'il avait eu l'occasion de rencontrer au cours de son séjour vosgien. Alors, on peut s'imaginer les conversations fructueuses que le philosophe put avoir, les seigneurs de Martin-Pré, mais aussi avec les nobles et bourgeois de cette contrée vosgienne assez reculée, en Maldidenov, et qu'il a laissé des traces de son séjour. Car, il ne faut pas se leurrer, la diffusion des œuvres philosophiques avait atteint Bruyères, et on peut supposer que la petite noblesse campagnarde, médiocrement fortunée qui ne passe pas toutes ses journées à gérer l'économie de son domaine, pouvait s'intéresser aussi à l'évolution des idées. Certes, si ces hobereaux vosgiens avaient moins le temps de lire que les riches nobles enrubannés et poudrés qui vivaient à Versailles, ou à Paris, ou dans les grandes villes, il est possible que la bibliothèque des comtes de Martin-Pré n'avait rien à envier à celle des nobles plus nantis, qui préféraient jouir plus de mondanité et de frivolité que ces bons compagnards, qui étaient finalement plus proches des réalités du moment. Et quand surviendra la Révolution, on verra, et tout particulièrement le comte Georges Constant Alexandre de Martin-Pré, faire un discours lumineux au moment de la préparation des états généraux, particulièrement empreint de philosophisme et se référençant à l'esprit des lois de Montesquieu. Alors, nous arrivons à cette affaire. L'affaire du théâtre défraie les chroniques et fait les choux gras de la presse en cette année 1764. Si le débat sur la moralité des spectacles de Tréteau semble aujourd'hui bien dépassé, étonnamment, en cette bonne ville de Bruyères, une demande de construction d'un théâtre est demandée par la jeunesse de la ville. On lit dans l'extrait des registres du greffe de l'hôtel de ville, à la date du 17 novembre 1764, un projet qui semble se présenter sous les meilleurs auspices. Voilà. Il est écrit ce jour, la chambre et conseil de police, assemblée, il a été dit ce qui suit. Quoique les arts fassent plus particulièrement leur séjour dans les grandes villes, ce n'est pas à dire qu'on doive les exclure de celles de second ordre. nous ne pouvons qu'être flattés de voir germer ici les semences du bon goût. Et nous devons, autant qu'il nous en est, favoriser les vœux de l'émulation d'une jeunesse distinguée qui nous a remontré qu'on pourrait, sans qu'il en coûtât beaucoup, élever en cette ville un théâtre permanent dans quelques parties de nos édifices publics sur lequel elle représenterait à ses frais et gratuitement des pièces dramatiques qui seraient tout à la fois une école d'urbanité et de morale. En plaignant Zahir, on éprouve les douceurs d'une compassion généreuse, Mérope vivifie la tendresse maternelle, le Cid fait des guerriers, et sur le portrait d'Harpagon, nous détestons l'avarice. Ce serait un tableau divin que celui des avantages que le drame a fait au grand peintre qu'il appartient d'entreprendre. Pour nous, nous aurons rempli nos vues et celles de nos concitoyens, quand nous aurons prié Monsieur l'Intendant de leur donner une approbation. Nous devons le faire avec d'autant plus de confiance que ce magistrat n'est pas moins éclairé qu'ami des arts, pronostic infaillible du succès de la demande. La matière, mise en délibération, est tout considérée, la dite chambre et conseil de police approuvant unanimement le plan proposé, dont l'exécution ne présente qu'une dépense d'environ 300 livres pour l'achat des planches nécessaires, a acté qu'il serait exécuté immédiatement après l'approbation de Monsieur l'Intendant. À la charge que la police des spectacles appartiendra à la dite chambre qui fera les règlements nécessaires pour la manutention du bon ordre. Délibéré en l'hôtel de ville, les ans et jours avant dit par l'Assemblée, et c'est signé Gérardin, secrétaire, un futur franc-maçon de la loge. Il n'y est pas encore. Formulée dans les règles, elle avait été acceptée par les édiles de la ville, dont deux futurs francs-maçons, Jean-Blaise Laurent, procureur syndic, qui lui deviendra conventionnel du Lot-et-Garonne, car en 1788, il quittera étonnamment Bruyères pour s'expatrier dans le sud-ouest. Et donc Joseph Gérardin, qui deviendra procureur au tribunal du district de Bruyères en 1794. Il a une très longue carrière sur Bruyères. Il n'y avait donc pas d'inquiétude à avoir pour ces jeunes gens, qui voulaient d'ailleurs être les comédiens de leur futur théâtre. Il leur suffirait d'aller prier l'intendant, dont ils ne doutaient pas de sa réponse favorable. En même temps qu'ils allaient s'amuser, ils feraient connaître aux bruyérois les œuvres classiques de nos génies littéraires. Mais c'était sans compter avec les capucins, le curé et le vicaire. Un front anti-théâtre se créa dans la ville, appuyé par les dévotes de la ville et renforcé par l'intervention du curé de Sainte-Marie-aux-Mines, qui ayant été mis au courant de cette histoire, en profita pour jeter l'anathème sur Zahir et son auteur Voltaire. À Bruyères, les bigots craignirent que ce projet grandiose qui permettrait à la jeunesse de monter sur les planches pour jouer elle-même les œuvres de Molière, de Corneille, de Voltaire, la pervertisse. Vous vous rendez compte? Pourtant, dans ce duché de Lorraine, ou à Lunéville, on ne se privait pas de jouer les pièces de théâtre au théâtre, et où les philosophes comme Montesquieu, Voltaire, Fréron, Moncrif, Tressan, Helvétius philosophaient en toute quiétude avec le bienveillant roi philosophe Stanislas, à Bruyères, les clercs en étaient restés sur cette idée saugrenue que les comédiens devaient être excommuniés. On eut beau argumenter auprès de ses censeurs que le théâtre était un lieu où s'assemblaient les plus honnêtes gens, les meilleurs citoyens, pour voir étaler sur la scène les actions, qu'on y présentait avec cet art dont le but était d'inspirer l'amour de la vertu, de révolter contre le vice et d'attaquer le ridicule, rien n'y fit. La dévoterie eut raison de ce projet grandiose. Porté par la jeunesse, et les bruyérois durent supporter le refus des ecclésiastiques au point tel qu'ils réussirent à faire hésiter le futur franc-maçon et conventionnel Jean-Blaise Laurent, oui, celui qui deviendra conventionnel, celui qui faisait partie d'une société des morts, là, qui pourtant avait dans un premier temps accédé à la demande, mais qui, catéchisé par le clergé, se crut impie et se repentit même. Les gazettes s'emparèrent de cette affaire, mais sans pour autant la faire modifier vers une issue favorable pour la jeunesse. Celui qui était à l'origine de la communication de cette histoire au journaliste était un noble Philippe-Antoine Chesnel, seigneur de Chesnil-Minil. Très proche des comtes de Martinpré, lettré, très présent à Bruyères, et qui avait été témoin du fait. Il est permis de penser qu'il fut franc-maçon, j'en ai pas la certitude, compte tenu de ses fréquentations étroites avec les frères de la loge et dont certains lui étaient même apparentés. Ce qui est amusant, c'est que 2 ans après cette affaire, quand le curé voulut obtenir une augmentation de sa portion congrue, il risqua fort de payer cet empêchement de la création du théâtre pour la jeunesse. En effet, en novembre 1766, il demanda que la pension de son vicaire soit à la charge de la ville, en vertu du principe qu'un vicaire doit exister dans toute paroisse de plus de 500 fidèles. Il réclama d'abord sa portion à raison de 500 livres par an. Ensuite, 200 livres pour son vicaire. Enfin, 50 livres qu'il avait déjà payés pour la pension de son vicaire. Et la ville se défendit, arguant que sa situation financière ne lui permettait pas d'abonder dans son sens. Il y eut un procès, dont l'issue donna raison au curé. Mais la procédure dura quand même 6 ans. Et quand la ville fut condamnée en 1774, c'était juste 2 mois avant sa retraite. Aussi, cette réponse du berger à la bergère, opérée sous le travers d'un conflit banal entre un maire et un curé, revêt sans doute plus d'importance qu'il n'y paraît. Car lorsque la Révolution viendra basculer cet ordre établi, la question religieuse, vous savez, sera au cœur du débat. Et qu'il sera enfin venu ce moment tant attendu d'affirmer sa foi dans le progrès, dans les sciences, pour se libérer des entraves ecclésiastiques. Une seconde anecdote sur le thème de la croyance concerne un curé assermenté de Bruyères, le curé Sibylle, qui eut durant la période révolutionnaire un comportement éloigné de celui qu'on pourrait habituellement attendre d'un ecclésiastique. Ce curé n'avait cessé de dénoncer les prêtres réfractaires, car il avait été un fondateur de la Société des Amis de la République, dont il en était devenu même le président, et qui n'hésitait pas à faire du zèle pour s'occuper des biens et créances des émigrés de Bruyères, et dénoncer ses collègues qui refusaient de signer la constitution civile du clergé. Un peu plus tard, en 1792, il récidive en faisant pression sur l'abbé Georgel, natif de Bruyères et secrétaire du célèbre cardinal d'Oran, l'affaire du collier de la reine, vous savez, pour qu'il quitte la région, et qu'il s'exile malgré la grande tolérance des autorités révolutionnaires du district de Bruyères. Oui, ils étaient assez sympas, Bruyères. Normalement, ils auraient dû le faire partir, mais ils disaient rien. Mais le curé Sibylle n'était pas d'accord. Alors, pour y parvenir, il s'était chargé de réchauffer le zèle de l'autorité du directoire du district, afin qu'on l'arrête et qu'on le contraigne à se rendre hors des frontières du royaume. Alors ce dernier s'exila avec le curé Didelot, qui était le fils d'un docteur Didelot, franc-maçon de Bruyères d'ailleurs, lequel le curé fit d'ailleurs l'erreur de revenir en France trop tôt. Malgré la loi d'interdiction, il s'est fait arrêter par les autorités révolutionnaires et on le guillotina à Mirecourt en 1794. Or curieusement, en 1793, alors qu'au cours de l'automne, l'application de l'arrêté du 18 Brumaire de Balthazar Faure, qui est le représentant en mission, concernant la destruction des signes extérieurs de culte, s'effectue sans trop de zèle à Bruyères quand même, comme si on s'attendait à ce que celle se calme naturellement toute seule. C'est dans ce moment-là que le curé assermenté Sibylle démissionne, à la stupéfaction de tout le monde, argumentant qu'il voyait la défaveur jetée sur les prêtres par l'opinion publique. Alors il quitte Bruyères pour s'installer à Dieuze, afin de préparer son mariage avec la sœur de Joseph Kéringer, qui est un franc-maçon de Bruyères, qui est alors vice-président du district de Bruyères, révolutionnaire dur et pur et dur. Ce dernier d'ailleurs vit très mal la chose, et il se rend à Dieuze, où, usant de son titre, fait arrêter l'ancien curé, le ramène à Bruyères pour le jeter en prison au milieu de celui de ceux qu'il n'avait cessé de dénoncer. Alors l'ex-curé va rester quelque temps emprisonné, malgré les exhortations de la municipalité pour le libérer. Mais curieusement, alors on voit le curé se marier en grande pompe, le 29 Brumaire, donc en 1793, à Marcheville, c'est dans la Meuse, avec une demoiselle, Cunégonde Bourgueil, et sur l'acte de civil, il est mentionné qu'il exerce la profession de ministre du culte catholique, ce qui n'est pas banal. Donc on constate donc que son incarcération, due au franc-maçon de Bruyère, Kéringer, qui finalement allait devenir son futur beau-frère, parce que c'était son futur beau-frère qui l'incarcérait, n'était pas sans causer de problème, ce qui peut expliquer sa dissuasion de se marier avec la sœur de celui qui avait été responsable de son incarcération. Et donc, il se marie, voilà. Donc, voilà ces petites histoires de bigoterie et de dévoterie donc à Bruyère, hein, qui s'est passé en ce 18e siècle. Voilà.
Merci Jacques pour tes propos. Je voulais simplement ajouter par rapport à tout ce que tu as dit, que pour ceux qui étaient là hier, d'abord, premièrement, que ce travail a été, on en parlait tout à l'heure tous les deux, ce travail pour Jacques a été rendu possible parce que vous savez qu'on est en train petit à petit de retrouver les fameuses archives du Grand Orient de France qui ont été emportées à la Seconde Guerre mondiale, ce que je ne savais pas, hein, puisque en partie ces archives-là étaient aux Pays-Bas.
Et pour celles-là, elles étaient en... Non, elles étaient en Russie, celles-là.
Elles étaient en Russie, celles-là, d'accord, oui. Donc, pour ceux qui étaient là hier, à la conférence de Jacques Raven, qui nous a reparlé donc de ces fameuses archives qu'on retrouve petit à petit, et qui permettent de retracer un peu l'histoire de nos loges vosgiennes, hein, je veux dire, en particulier. Moi, je suis surpris quand même par... Enfin, je découvre un peu l'histoire du théâtre de Bruyère. J'y suis sensible parce que on s'aperçoit quand même que dans notre département, il y avait une vie culturelle à cette époque très intense.
Ça fait.
Pour moi-même, à titre personnel, travailler sur un théâtre aujourd'hui, travailler professionnellement sur un théâtre, en l'occurrence celui de Mirecourt, dont j'ai appris à, pour les besoins de la cause, à bien connaître l'histoire. Puisque le théâtre de Mirecourt à l'italienne, il date de 1823.
Oui, c'est plus tardif.
C'est un peu plus tardif, mais oui. Et quand même, le théâtre de Mirecourt à l'époque était devenu le deuxième théâtre des Vosges par l'affluence. Hein,
je veux dire.
Et donc, on s'aperçoit que cette époque était très riche sur le plan culturel, parce que qui dit théâtre dit forcément vie culturelle derrière. Et troisième remarque par rapport à tes propos. Je ne sais pas si nous sommes dans un temple maçonnique, donc c'est l'occasion de le dire. Il faut dire que la maçonnerie en général travaille ou pas à la gloire du grand architecte de l'univers ou pas.
Oui.
Hein, je veux dire.
Maintenant,
oui. Donc, mais il convient de le préciser, quoi. Je crois que c'est la franc-maçonnerie n'est pas une église. Et qu'on a le droit, en tout cas pour tout franc-maçon, de croire ou de ne pas croire. Hein, je crois que parfois on dit là, les francs-maçons mangent du curé, si je puis dire, ou de la religion. Et là-dessus, c'est l'occasion de rappeler qu'effectivement, l'objet de la franc-maçonnerie n'est pas de manger ou pas de la religion en général et de la religion catholique en particulier. Hein, je crois que il convient de le préciser à la lumière de ce que tu disais précédemment. Alors évidemment, à cette époque, la relation avec la religion était un peu différente.
Était très bonne, oui.
Et...
La religion, il y avait même des loges qui étaient constituées essentiellement de moines.
Absolument.
Dont le véné était carrément le prieur de l'abbaye, hein. Mm-hmm. Oui, c'était, oui,
on
très bien.
On peut rappeler à cet égard l'abbé Grégoire, par exemple, qui...
Il n'était pas franc-maçon.
Qui n'était pas franc-maçon.
Non, mais enfin, il était
qui l'a...
bien disposé pour la franc-maçonnerie.
Voilà. Pour ceux qui ont visité le musée qui lui est consacré en Berménil, près de Lunéville, par exemple. Donc voilà, hein, tout ça, c'est, on s'aperçoit que cette époque était très très riche et que la maçonnerie était une des facettes, quoi.
C'est-à-dire,
peut-être différente de celle d'aujourd'hui, hein, forcément.
Disons que la maçonnerie était bien vue dans un certain sens, mais elle était également mal vue dans un autre sens, puisque de toute façon, il y avait quand même les bulles du pape qui avaient interdit la franc-maçonnerie. Mais comme la France était gallicane, et donc ça n'avait aucun impact sur ce qui se passait en France, et même également d'ailleurs en Lorraine, hein, puisque le roi faisait ce qu'il voulait, quoi. Tant que le Parlement n'avait pas, disons, avalisé la bulle du pape, on faisait ce qu'on voulait, quoi. C'est ça le gallicanisme, hein,
tout à fait. Voilà. Donc, si vous avez des questions ou des remarques ou des interrogations, des demandes de précision, je vous en prie.
Bon, merci.
Bonjour.
Une question sur le statut de l'acteur en tant que tel. Alors, on l'a sans doute tous en mémoire, ce que Mikhaïl Bulgakov disait à propos de Molière était décédé. Le roi Louis XIV avait dû intervenir pour qu'il se fasse enterrer en terre consacrée, mais pas tout à fait en terre consacrée, parce que l'Église ne voulait pas. Et je voulais savoir si, mais c'est quand même quelques dizaines d'années auparavant, est-ce qu'on est dans ce même type de débat avec ce refus du théâtre à Bruyères ? Est-ce que la pensée avait déjà évolué ? Est-ce que le phénomène de Bruyères est anecdotique ? Ou bien est-ce qu'on voit ça dans d'autres diocèses, si j'ose dire, et dans la Lorraine de manière générale ? Je vous remercie.
Moi, je pense que ça doit être... Il faut considérer ça un peu comme anecdotique, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on voyait bien qu'à Lunéville, il y avait des pièces de théâtre qui étaient jouées. C'était l'époque où les théâtres parisiens ne désemplissaient pas. Je pense que on avait presque pas dépassé l'époque de Voltaire, puisqu'il était encore bien vivant, mais je pense quand même que les comédiens étaient malgré tout excommuniés, je crois. Je pense qu'ils devaient être excommuniés quand même. Et je pense que, comme à l'époque de Mozart, qui est enterré à la Sauvette, je pense que, oui, les comédiens, les artistes étaient toujours considérés comme des gens... je sais pas comment on peut dire, différents et qui avaient pas le droit d'avoir peut-être les sacrements d'extrême onction, de pénitents, je pense, je crois. Hein. Ouais, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, le fait est dit qu'à... Bon, il se trouve que c'était des capucins, c'est vrai, mais si ça avait été des bénédictins, je pense que ça aurait été différent. Hein, les bénédictins n'auraient pas été aussi durs que le furent les capucins. Faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait quand même... on n'était pas loin de Sonone. Sonone, il y avait quand même, donc Calmé, il y avait, bon, les bénédictins étaient beaucoup plus tolérants, c'était totalement différent. Mais là, les capucins, là, pas pareil, hein.
Ouais. Pour rappeler la thématique de cette sixième édition des Imaginales maçonniques et ésotériques, hein, vous l'avez vu en bas, ce sont les croyances.
Oui.
Et c'est vrai que, sans doute, à cette époque, les croyances avaient ou pas, d'ailleurs, j'avais envie de te poser la question, Jacques. Est-ce que les croyances à cette époque avaient la vie plus dure qu'aujourd'hui? Puisque ça a été un peu, dans plusieurs conférences hier, ça a été un peu le débat. Et puis, c'est Jacques Raven qui disait hier que, finalement, lorsqu'il y a crise économique, crise sociale ou crise politique, enfin, en tout cas, quand un pays est en crise, on a systématiquement derrière, des théories du complot qui reviennent, des croyances qui reviennent, un peu complètement, des croyances complètement irrationnelles. Mais je veux dire, est-ce que toi, tu penses que...
Oui, je pense.
Les croyances de l'époque étaient différentes ou pas d'aujourd'hui? C'est un peu ma question.
Alors, je pense que les croyances, étaient tout à fait présentes. Mais je pense surtout, peut-être dans le petit peuple, quoi. Hein, les superstitions étaient très, très en vogue, hein. Alors je pense que au contraire chez les nobles, chez les intellectuels, je pense que non, ils étaient beaucoup moins sujets à ces croyances. Hein, dans le petit peuple, il n'y a pas de doute. Surtout quand les choses allaient mal, On pouvait croire au malin, on pouvait croire à Belzébuth, on croyait certainement à tous ces, à tout, toutes ces, ces fantasmagories, hein, ça c'est évident, hein. Et maintenant, à partir du moment où ça va pas, effectivement, il y a les théories du complot, comme tu dis, qui ressurgissent, hein. Oui, tout à fait.
Bien sûr. Bien sûr. Mmh. Une autre prise de parole? Je t'en prie, Christian.
Bonjour à tous. Je voudrais vous remercier déjà de travail extraordinaire que vous avez fait. J'ai pas fini de lire le livre parce que il faut s'en reprendre quand même.
Ouais, vous êtes maire de Docelle, quand on s'était rencontré une fois. Ouais.
J'ai découvert beaucoup de choses, hein, sur Bruyère, bien entendu, parce que vous venez seulement de pouvoir avoir accès à différentes archives, c'est quand même important. Mais quand je vous écoutais et tout, j'essayais de faire un lien parce que vous avez parlé de Neville, vous avez parlé aussi de Voltaire, j'ai parlé de tout ça. Et dans ma tête, il y avait un lien qui était en train de se construire peu à peu, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, suite aussi à des interrogations que nous avons sur Docelle par rapport à la famille Kranz, qui a joué un rôle très très grand dans l'économie, mais aussi dans l'évolution. Et aussi dans l'évolution de la spiritualité. Et je me disais, je vais relier ça aussi au fait que ce sont nos papeteries dans le coin là-bas qui ont été les premières choisies pour pouvoir essayer, parce que ça n'a pas trop bien marché, de faire les fameux ouvrages de Kell, de Voltaire. Et c'est le papier de nos coins là-bas. Alors je me dis, est-ce que Kranz c'était. On se pose la question par ça, pour savoir si Kranz a fait aussi partie de la franc-maçonnerie, parce que ça ne serait pas étonnant par rapport à son attitude, par rapport à son humanisme, etc. Je ne sais pas si vous avez...
Alors, cette question m'a déjà été posée par Jean-Pierre Buton, hein, que vous connaissez bien, je lui ai dit non, que je ne savais pas, il n'y a aucun élément peuvent, disons, aller dans ce sens, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas été franc-maçon, c'est possible, hein, parce que c'est une famille qui a été très active, qui a eu énormément d'action. C'est possible, hein, c'est possible, mais là, rien ne le prouve, rien ne le prouve. Ah oui. Oui, il a travaillé certainement avec Véringe par un moment. Donc, comme Véringe était franc-maçon, hein, oui, il est fort probable, mais on peut pas le prouver. On peut pas le prouver. Même dans le fond bossu ne parle pas de Kranz. Ah non.
Simplement une réflexion comme ça par rapport à ce que vous venez de dire. Ce qui m'inquiète un peu, moi. C'est qu'on est en train de mélanger un petit peu la spiritualité dans le sens noble du terme.
Oui.
C'est tout individu qui doit arriver à ça. Et on est en train de. Enfin, mon observation, c'est que on essaie de traduire ça plutôt à travers des religions.
Oui.
Et surtout des religions, des parties de religions extrêmes. Et moi, en tant qu'humaniste, je trouve que on est en train de perdre un petit peu le sens de la spiritualité. Parce qu'on essaie de tout cadrer, de tout mettre. Spiritualité, c'est extraordinaire. C'est la liberté, la spiritualité, la liberté de l'esprit. Alors que là, on est en train de nous caler, on essaye de nous caler dans des choses qui ne sont pas la spiritualité. Enfin, excusez-moi de dire ça, mais c'est pendant que vous en parliez, parce que je ne vois pas bien.
Bah, disons que là. La spiritualité, elle n'est pas essentiellement religieuse, c'est ça. La spiritualité, elle est, c'est par définition, spirit, l'esprit, ça veut dire que la spiritualité elle peut être par exemple maçonnique, comme on dit, elle peut être laïque. La laïcité, c'est presque une sorte de philosophie, c'est un résultat de la spiritualité, quoi. Hein, et d'ailleurs, on peut même dire que une personne qui n'est pas croyante, eh bien, elle peut être plus spirituelle au niveau spiritualité qu'une personne qui est religieusement croyante. Pourquoi ? Parce que la personne qui ne croit pas, elle se pose des questions, elle s'interroge, alors que la personne qui croit est persuadée d'avoir raison et ne s'interroge plus. Et donc à partir de ce moment-là, celui qui ne croit pas, il peut vivre plus douloureusement sa vie spirituelle que celui qui croit. Donc vous voyez, finalement, spiritualité, ça veut, ça, on peut aller loin à ce niveau-là. Voilà.
Merci Christian pour ton intervention que je partage complètement sur le fond, puisqu'effectivement aujourd'hui on veut absolument caser tout le monde dans des cases, ranger tout le monde dans des cases, et tu as parlé de spiritualité laïque, c'est effectivement un terme important, et je veux dire, en franc-maçonnerie, c'est un travail qu'effectivement on peut mener. Hein, et en tout cas pour un atelier que je connais bien, parce que c'est celui que je fréquente, on travaille maintenant depuis quelques mois sur cette question de la spiritualité, et qui est systématiquement travaillée à chaque réunion. Donc je pense qu'aujourd'hui le danger de notre société, c'est bien réellement de mettre tout le monde dans des cases. Et si vous êtes effectivement non religieux, vous êtes forcément anti-religieux. C'est pour ma part, moi je ne suis pas effectivement très religieux, mais pour autant je ne suis pas anti-religieux dans mon approche quotidienne des choses, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Je crois que c'est important de le souligner dans un lieu comme le nôtre ici ce matin. Alors on déborde un peu de Martin Pré, mais
de bruyère.
De bruyère, mais c'est tout à fait exact que la spiritualité est un mot important, et que ce mot-là était sans doute très important en Martin Pré, en 1764.
En 1764. Alors, ce qui est amusant, c'est que les Martin Pré de maintenant, les descendants, eh bien, quand je leur ai appris que j'avais fait un livre sur leur famille, la première réaction que j'ai eue, ça a été, de la colère de leur part, parce que ils ont dit: mais monsieur, nous n'avons jamais eu de franc-maçon dans la famille et nous détestons les francs-maçons. Alors je leur ai dit: ben je regrette, il y en a déjà trois que j'ai pu repérer dans votre famille et je pense qu'il y en a encore un quatrième, quoi. Bon, et puis après ils sont un peu amadoués, et maintenant alors il y a des membres de la famille qui sont très intéressés et qui demandent à avoir le livre, quoi. Mais c'est des gens qui sont très très pratiquants, très, ils font partie des chevaliers de Malte, de Malte, étant très très pratiquants. Et alors ils sont pas tous comme ça, parce que maintenant il y en a qui sont partis vivre un petit peu dans le monde en entier, il y en a qui sont un petit peu partout, surtout des jeunes, et alors qu'ont l'esprit beaucoup plus ouvert, quoi.
Je crois que ça a été dit hier dans une des conférences, et ça, moi je dis, je partage complètement. L'histoire n'est pas linéaire. Elle fonctionne en spirale, ou je sais pas comment on peut la définir, mais enfin il y a des gens dans l'assemblée qui connaissent bien l'histoire, et c'est vrai que c'est, pour beaucoup l'histoire est linéaire. Absolument pas. Pour moi elle est pas linéaire, et on pourrait la dessiner en spirale ou alors avec des volutes qui reviennent.
Et souvent ça revient. Hein.
Oui, ça revient.
On s'en aperçoit maintenant.
Ouais, tout à fait.
Oui.
Une autre question ou prise de parole ? François ?
Comment a évolué cette loge ?
Oui, c'est bon.
Alors, tout à fait. Cette loge a été créée au départ par Nicolas Joseph de Martin Pré, qui était un ancien militaire major d'un régiment qui était en Haute-Saône. Et quand il est venu, il avait fait la guerre de 7 ans, beaucoup avaient fait la guerre de 7 ans, et il est venu, vivre dans son fief, à Martin Pré, également Bruyère aussi, et il a créé avec des anciens militaires, qui certainement avaient été avec lui dans le même régiment, j'ai bien vu quelques-uns, qui habitait le coin, il a pu créer donc cette loge avec des gens du cru. On voit que c'est une loge purement locale. Hein, on voit bien que ils ont eu du mal de pouvoir constituer les effectifs. Ils ont dû faire appel à des membres de leur propre famille. C'est une loge qui est très familiale, très apparentés et également constitués d'amis, de nobles du coin. Et puis également de juristes de Bruyères. Voilà. Alors, elle a duré cette loge jusqu'en vers 1785. Mais entre-temps, oui, et à partir de 1785, il y a une deuxième loge, qui est la loge de son fils, Georges Constant Alexandre de Martinpré, qui prend le relais, et il change le titre distinctif, et cette fois-ci, c'est plus Saint-Jean de la parfaite amitié, c'est Saint-Georges de la juste et inébranlable réunion. Voilà. Et donc, alors c'est une loge qui tombe dans ces moments-là où la révolution va bientôt arriver. Et c'est une loge qui va être petit à petit infiltrée de personnes de la société civile, je dirais plutôt, juristes, même parfois révolutionnaires. Donc voilà. Et alors, elle va certainement se saborder, on ne sait pas quand est-ce qu'elle se termine, mais elle va se saborder à la Révolution de toute façon. Mais on voit que, et en 1788 par exemple, on sait qu'il y a une personne qui a été apprenti à la loge de Bruyères, et elle est en visite à Saint-Jean de Jérusalem à Nancy. Donc c'est des moyens qui permettent de savoir que elle fonctionnait encore, puisque il avait été initié en 1788 à Bruyères. Oui, donc ça permet, quoi. Voilà. Mais alors c'était des loges, on peut pas savoir combien. Saint-Jean la parfaite amitié, si, il y a. Dans les archives russes, on retrouve tous les noms qui en font partie. On voit tous les noms, c'est des juristes, parfois membres de la famille. J'ai fait des tableaux généalogiques, on voit, ils sont apparentés. Hein. Ah, ils sont apparentés. Alors, les Martinpré représentent la haute aristocratie, puisque ça remonte aux croisades. Hein, c'était vraiment de... c'est vraiment les nobles bien assis. Et puis autrement, bah, vous avez les nobliaux, qui sont des personnes qui ont été anoblies il y a quoi, une ou deux générations. Alors il y a beaucoup de ces femmes, il y a beaucoup ces nobles de Lavelines, comme on dit, les nobles de Lavelines. Je sais pas si vous avez entendu parler de ces nobles de Lavelines, c'est assez caractéristique. Ce sont des gens qui ont été anoblis à l'époque du roi René II, donc quand il y avait la guerre de 30 ans. Parce que à un certain moment, le château de Bruyères avait été investi par Charles le Téméraire, et René II voulait s'emparer du château de Bruyères. Et il n'y arrivait pas, parce que c'était un château bien défendu, hein, qui était inexpugnable presque. Et il y a un gars là de Bruyères qui je ne sais plus comment il s'appelle, Varin d'Oron, qui merci, qui va voir René II, puis lui dit, bah écoutez, sire, j'ai un moyen de vous faire pénétrer la nuit dans le château par un souterrain, puis après vous arriverez dedans, vous pourrez vous emparer du château. Et alors bon, c'est ce qui se fait, il s'empare du château, puis après le roi René lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous récompenser? Bon, alors, c'est le Varin d'Oron est assez, c'est un garçon qui demande pas trop de choses. Il dit, bah écoutez, simplement que je devienne le sergent de ville pendant dans la ville, et puis que ma descendance puisse également devenir sergent de ville. Puis il dit, mais vous voulez rien d'autre? Oh, du non, ça. Ah, puis alors, à ce moment-là, René Don lui dit, bah, écoutez, moi je vais faire en sorte que tous les habitants de Lavelines, parce qu'il venait de Lavelines, un petit village près de Bruyères, eh bien je vais faire en sorte que tous les gens qui sont à Lavelines vont être nobles, et toutes leurs descendants seront nobles, et même la noblesse pourra être communiquée par les femmes, ce qui est assez exceptionnel, que d'habitude c'était les hommes. Et ce qui fait qu'après, les cultivateurs de Lavelines, ils deviennent des nobles. Alors bien sûr, quand arrive la Révolution, c'est assez amusant, parce que quand arrive la Révolution et qu'il y a la réunion des États généraux, etc. Eh bien, les nobles de Lavelines veulent bien sûr faire partie des nobles, etc. Mais si t'as que les autres nobles, ils lèvent le nez sur cela et estiment que c'est pas des vrais nobles. Vous voyez, donc même entre eux, ils sont, ils se tirent entre eux dans les pattes. Voilà. Donc alors, il y avait pas mal de nobles de Lavelines parmi les francs-maçons. mais qui était apparenté au Martin Pré, parce que à l'époque, pour se marier, il fallait bien quand même trouver des nobles. Alors même si c'était de l'Aveline, bah il prenait des femmes de l'Aveline. Et voilà, donc voilà. Alors j'en ai connu sur Mirecourt qui étaient des nobles, des deux Rosières, je me rappelle, et qui se prenaient vraiment trop au sérieux, je me rappelle à l'époque. Et je ne savais pas, mais ils venaient de l'Aveline aussi, ceux-là.
Il convient juste peut-être de préciser que la notion de loge à l'époque, je veux dire, tu seras peut-être d'accord avec moi, je veux dire, se pratiquait un peu différemment d'aujourd'hui, dans le sens où les francs-maçons de 1764 construisaient un peu leur, enfin installaient leur atelier dans une arrière-salle de café, par exemple. Oui. C'est-à-dire qu'ils traçaient le pavé mosaïque, ils déroulaient un tableau de loge. Ils installaient un certain nombre de décors et c'était parti. Je veux dire, cette notion de création de loges systématiques à chaque réunion était beaucoup plus répandue qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, même les maçons d'aujourd'hui aiment peut-être leur confort, mais on travaille dans des salles plus élaborées, plus stables entre guillemets. Et à l'époque, je pense que Jacques, tu seras d'accord.
Oui.
On trouvait une salle et on l'a transformée en temple et on rangeait tout à la fin. On effaçait éventuellement le tapis de loge dessiné à la craie. Et ça, c'était aussi des pratiques qu'on voit moins aujourd'hui.
Ah bah oui.
En Lorraine, je connais moi, pour ma part, un atelier qui travaille au Prémontré, par exemple, à Pont-à-Mousson, les amis de Saint-Antoine, qui crée son temple à chaque tenue, puisqu'ils ils louent une salle qui est donc pas installée, et donc à chaque tenue, ils installent leur temple.
Ah ouais.
Ici, suivant les obédiences et les rites, on a parfois effectivement des modifications dans l'organisation, mais on trouve rarement aujourd'hui des ateliers qui travaillent, qui transforment la salle de réunion en temple le temps d'une tenue.
Oh, ça, je savais pas, Lyon.
Oui.
Du boulot à chaque fois, hein.
Oui, du boulot à chaque fois, c'est clair. Ça, c'est bien, on est bien. Non, mais je veux dire, la maçonnerie du 18e pratiquait couramment.
C'était souvent par exemple, chez les Martin Pré, ça se faisait au manoir de Martin Pré. C'était le château de Martin Pré, d'ailleurs, qui existe toujours. Là, enfin, c'est pas un château, c'est une belle demeure. Dans le bouquin, on la voit, elle est en photo. Là, elle existe toujours, puis après, ça a été après sur Bruyères. Et la deuxième loge de l'inébranlable Réunion, ça a été sur Bruyères. Hein. Oui, oui. Mais bon, souvent, c'était chez les seigneurs même. Hein.
Oui. Mais on s'aperçoit du coup qu'à l'époque, les francs-maçons connaissaient peut-être mieux leurs symboles qu'aujourd'hui, quoi. Hein, je veux dire, puisque régulièrement, ils étaient amenés à aller travailler de manière très opérationnelle. Une dernière question, puisque on va arriver au terme de cette conférence, ou une dernière remarque. Je vous en prie.
Je voulais savoir sur le fond, alors je ne sais pas encore le livre, mais peut-être la pensée dedans, le fond maçonnique sur lequel vous avez donc pu travailler pour Bruyères, qu'est-ce qu'il est exactement dedans? Est-ce que c'est riche? Est-ce que c'est très parcellaire? Qu'est-ce qu'il en a exactement?
Oui, c'est une bonne question.
Il est riche à la fois et puis il ne l'est pas non plus. C'est-à-dire que vous avez des lettres de francs-maçons qui essaient d'obtenir de la Grande Loge de France la possibilité de faire partie de la Grande Loge de France. Donc alors c'est des sollicitations. Et puis il y a d'autres lettres qui sont des lettres d'appui, puisque la loge de Bruyères a été créée grâce à une loge de Haute-Saône, de Luxeuil. Et donc on voit il y a des échanges de lettres entre la Grande Loge de France, la loge de Luxeuil et la loge de Bruyères. Et puis après vous avez des listes, vous avez des tableaux de loges où il y a le nom des tous les membres qui font partie de cette loge. Alors vous en avez quelques plusieurs parce que c'est un peu sur quelques années. Et on voit donc au départ, il y en a tant, puis après, il y en a un petit peu plus, etc. Et là, grâce à ces noms, avec prénom et profession, ça m'a permis de pouvoir, à ce moment-là, chercher. C'est une base de départ. Là, si vous voulez, la base de départ, c'est les archives russes qui me permettent de savoir les noms. Un point, c'est tout. Et puis après, moi, je vais chercher dans les archives. Bon, l'histoire bien sûr du théâtre, l'histoire de tout ça, c'est pas bien sûr dans les archives russes, hein. C'est dans les archives départementales des Vosges, hein, où en cherchant, on retrouve des choses. Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire le rapprochement. En voyant les noms des protagonistes, etc., de ce qui s'est passé réellement, on en déduit des choses. Hein, l'affaire du théâtre, l'affaire Kéringer, c'est pas dans les archives russes. Hein, c'est en cherchant, c'est autre chose. C'est tout à fait différent, quoi, bien sûr. Hein, mais faut pas croire, dans les archives russes, on trouve des traces. On trouve des traces qui vous permettent d'avoir une base de départ. Et après, à ce moment-là, c'est le chien de chasse. Après, on part. Hein, mais autrement, si on en reste simplement aux archives russes, alors là, à la fin, j'ai une annexe où je parle des archives, les archives russes qui concernent la loge de Luxeuil. Pourquoi ? Parce que la loge de Luxeuil a des liens très forts avec la loge de Bruyère, hein, puisque c'est des liens familiaux même. Et alors, j'en parle. Pourquoi ? Parce qu'il y a des anecdotes qui sont mais vraiment inénarrable, c'est inénarrable de voir comment la franc-maçonnerie se pratiquait à Luxeuil, mais c'est vraiment marrant, quoi, hein, quand on voit le comportement de libertins, je dirais libertins dans les deux sens du terme, hein, du vénérable de Luxeuil, qui est très impliqué d'ailleurs à Bruyère, hein, eh bien, quand on voit comment il se comporte, mais c'est absolument amusant, hein, c'est dingue, on est loin de la maçonnerie de maintenant, hein. C'est la maçonnerie 18e siècle. Hein, mais disons que on peut pas dire que celle-là elle soit exemplaire. Hein. Elle est pas exemplaire. Mais que voulez-vous, à l'époque, c'était comme des Lions Club ou des Rotary. Hein, c'était pas la loge des Neuf Sœurs à Paris. Hein, je sais pas si on faisait beaucoup de philosophie. À mon avis, je pense pas. À Bruyère, on ne devait pas faire beaucoup de philosophie, bien que ils étaient ouverts aux idées de lumière. Grâce à Marmontel. Mais on voit, c'est comme ci, comme ça. C'est pas... Ah oui, hein.
Et t'as raison, Jacques. Effectivement, la maçonnerie d'aujourd'hui est très sérieuse.
Voilà.
Je te remercie de cette évaluation que je partage. Hein.
Tout à fait.
Et je dis souvent avec un trait d'humour que on est un peu masochiste aujourd'hui, puisque... On paye pour travailler et suer, quoi. Je veux dire,
Oui, c'est vrai. On travaille beaucoup.
Dans
hein.
notre société de consommation et de, ouais, je veux dire, c'est parfois étonnant, mais on est un peu maso, quoi. Je veux dire, on donne des sous pour travailler, puisque chacun tour de rôle travaille sur oui. un sujet philosophique, sociétal ou symbolique. Et je veux dire, dans notre société, ça se voit. Pas forcément aujourd'hui, où on va chercher du loisir. Je veux dire, les maçons d'aujourd'hui sont très vertueux. Ouais, c'est une excellente note pour finir, une excellente conclusion. Je vous remercie, puisque nous allons accueillir dans quelques instants une autre conférence. Et on peut applaudir Jacques.
Merci, c'est moi qui vous remercie.